Vous êtes toujours à l'écoute de Radio France Internationale. 5h à Paris, 4h en temps universel. Marion Cazeneuve est avec vous pour la prochaine demi-heure. Bonjour Marion.
Bonjour Edouard, bonjour à tous.
Votre journal d'abord. Et ce nouvel échange de prisonniers et d'otages dans le cadre de la trêve entre Israël et le Hamas.
8 otages libérés hier pour certains avec du retard dans des conditions chaotiques. Ce qui a retardé plus tard les libérations de détenus palestiniens. Ils ont ensuite été accueillis par des milliers de personnes à Ramallah. L'enquête se poursuit à Washington pour déterminer les causes de la collision meurtrière entre un avion et un hélicoptère. Les deux boîtes noires ont été retrouvés il y a quelques heures. L'accident aurait pu être évité, assurent les spécialistes. Un calme précaire à Goma, dans l'est de la RDC. La situation sera abordée aujourd'hui à Harare, au Zimbabwe, lors du sommet de la SADC. Dans ce journal, également cette victoire pour les défenseurs de l'environnement. La justice britannique interdit l'exploitation d'un champ gazier et d'un gisement de pétrole en mer du Nord. Et puis en rugby, le début du tournoi des Six Nations ce soir. Le 15 de France espère commencer avec éclat contre le Pays de Galles, dernier du tournoi en 2024. De nouvelles scènes de liesse à Ramallah pour accueillir les prisonniers palestiniens libérés par Israël. 110 prisonniers libérés hier. Israël avait suspendu plus tôt dans la journée cette libération en raison du chaos dans lequel s'est déroulée une autre libération, celle des otages du Hamas et du djihad islamique. 5 Thaïlandais et 3 Israéliens ont été relâchés, pour certains dans des conditions difficiles, donc escortés par des combattants masqués au milieu d'une foule survoltée. Ces libérations ont été suivies par une foule d'Israéliens à Tel Aviv sur un écran géant sur la place des otages et ils s'inquiètent pour la suite. Reportage de nos envoyés spéciaux Muriel Paradon et Nicolas Benita.
L'angoisse, puis le soulagement. Des centaines d'Israéliens suivent devant un écran géant les libérations d'otages à Gaza, au compte-gouttes et parfois dans le chaos. Sur cette place de Tel Aviv, Evan Greenstein est venue soutenir les familles d'otages, accompagnée de son chien qu'elle a couvert d'un drapeau israélien. Ouvertement nationaliste, elle se montre pessimiste pour la suite des événements.
On est seulement dans une période de cessez-le-feu, donc il faut vraiment que le Hamas baisse les armes, arrête cette idéologie. Et je pense qu'ils nous ont prouvé à maintes et maintes fois qu'ils n'avaient aucun désir de paix. Toutes les mises en scène qui sont faites sur des scènes devant tout le monde, ne pas donner les noms qu'on a demandés, ne pas respecter les horaires, etc. On ne peut pas leur faire confiance.
Tant que le Hamas ne sera pas éliminé, il n'y aura pas de paix possible, affirme-t-elle. Ce n'est pas l'avis de Hadass. Pour cette septuagénaire, il faut avancer malgré les obstacles.
J'espère un accord de paix. Je ne fais pas spécialement confiance à ce gouvernement pour y arriver. Je ne lui fais pas confiance du tout, mais j'espère la paix de tout mon être. On ne doit jamais penser autrement, parce que si vous ne visez pas quelque chose, c'est certain que vous ne l'atteindrez jamais. Ce ne sera peut-être pas le meilleur des accords, mais c'est la seule solution.
Parvenir à une paix durable. Pour l'heure, l'accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas n'en est qu'à sa première phase et reste fragile, prêt à rompre à tout moment. Muriel Paradon, Nicolas Benita, Tel Aviv, RFI.
Le CICR, le Comité international de la Croix-Rouge, demande lui une amélioration de la sécurité après le chaos des libérations à Gaza. Israël dit avoir reçu une garantie justement sur ses prochaines libérations. L'armée israélienne, si elle fait taire les armes à Gaza, poursuit des opérations en Cisjordanie occupée. 2 Palestiniens ont été tués hier à Jenin, selon l'autorité palestinienne. La ville est considérée comme un bastion de la lutte armée palestinienne. L'armée israélienne a aussi confirmé la mort la veille, mercredi, de 10 Palestiniens toujours à Jenin. Un soldat israélien a aussi été tué dans un échange de feu. En Syrie, le premier discours à la nation d'Ahmed al-Shara en tant que président par intérim. Il a promis une conférence de dialogue national, ce que demandent beaucoup de Syriens qui veulent participer à la reconstruction du pays. Ahmed al-Shara affirme aussi qu'il veut préserver la paix civile et l'unité du territoire. Un peu avant, il a rencontré l'émir du Qatar à Damas. Ce dernier est le premier dirigeant étranger à se rendre dans le pays depuis la chute de Bachar al-Assad. La situation en Syrie suivie de près par les Kurdes syriens réfugiés en Irak. On sera au Kurdistan irakien pour le reportage international. ce sera juste après ce journal. Aux États-Unis, un peu plus de 24 heures après la catastrophe aérienne à Washington, les deux boîtes noires de l'avion ont été retrouvées. Aucun survivant après la collision d'un avion avec un hélicoptère au-dessus de la capitale américaine. 67 personnes ont été tuées à bord de l'avion, des Américains mais aussi des ressortissants russes et chinois. Les boîtes noires devraient permettre d'éclaircir les causes de la catastrophe, mais deux éléments ont sans doute joué un rôle. La collision a eu lieu en soirée et donc dans l'obscurité. Et le système anti-collision de l'avion de ligne était, lui, désactivé puisque l'appareil s'apprêtait à atterrir, comme l'explique Gilles Diars, contrôleur aérien et expert aéronautique.
Ces systèmes d'anti-collision sont désactivés en dessous d'une certaine altitude, justement pour éviter des situations où les avions sont relativement proches les uns des autres quand ils se posent et qu'ils décollent. On aurait à ce moment-là des déclenchements intempestifs d'évitement qui seraient justement encore plus dangereux pour la sécurité aérienne. Donc en dessous d'une certaine altitude, ce système d'anticollision qu'on appelle le TICAS est désactivé. Donc là, à l'altitude à laquelle s'est produit l'accident, ils étaient complètement inutiles.
Et à cela s'ajoute évidemment l'obscurité au moment de la collision.
Pour un pilote, repérer un avion de nuit, on va dire, c'est facile parce qu'on le voit de relativement loin. Le problème, c'est qu'on évalue très très mal les distances quand on est de nuit. Ça, c'est déjà une première problématique. Autre problématique que l'on a, c'est quand vous êtes sur une trajectoire de collision. Si vous regardez depuis votre avion l'autre avion, ben vous allez avoir un objet qui est immobile sur votre pare-brise. Et donc, ça peut être une des raisons de cet accident. Ça peut être que les pilotes aient pu confondre le phare de l'avion avec une lumière au sol.
Gilles Diars, contrôleur aérien et expert aéronautique, il répondait aux questions de Daniel Valot. Selon la presse américaine, les effectifs de la tour de contrôle ce soir-là n'étaient pas à leur niveau normal. C'est ce qui ressort dans un premier rapport que les enquêteurs à ce stade ne confirment pas. Le président américain, lui, a accusé ses prédécesseurs Joe Biden et Barack Obama d'avoir baissé les exigences en matière de contrôle aérien. Donald Trump a ciblé notamment les programmes qui promeuvent la diversité au sein de l'administration, notamment le régulateur de l'aviation. RFI 6h07 à Goma dans l'est de la RDC, où un calme précaire est revenu ces jours-ci. Après des affrontements entre l'armée congolaise et le M23, des commerces ont rouvert hier. La situation dans la région sera au cœur du sommet de la SADC aujourd'hui, la communauté de développement d'Afrique australe. Elle se déroule à Harare, au Zimbabwe. La SADC a elle-même déployé une force dans l'est de la RDC avec des soldats sud-africains, malawites et tanzaniens, et devra notamment décider de l'avenir de cette force, Claire Bargelès.
L'agenda provisoire ne laisse pas filtrer grand-chose, mais l'hôte zimbabwéen a confirmé que l'ordre du jour sera dévolu au débat autour de l'engagement de la communauté dans l'est de la RDC. Car les chefs d'État doivent décider quelle suite donner au déploiement de la SAMI DRC, pour l'instant prévu jusqu'à la fin de l'année. Depuis le début de l'offensive du M23 sur Goma vendredi, l'Afrique du Sud, aussi présente sur place dans le cadre de la MONUSCO, compte déjà 13 morts du côté de ses soldats, et le Malawi 3. La situation est très difficile pour les troupes de la SADC retranchées dans les bases de Goma et de Sake, bien que peu d'informations soient communiquées sur leur état. Kigali accuse ce déploiement de ne pas être une force de maintien de la paix et de travailler aux côtés de groupes génocidaires armés comme le FDLR. Le ministre sud-africain des Affaires étrangères a toutefois indiqué hier soir avoir pu s'entretenir avec son homologue rwandais et affirme que les deux pays sont engagés à faire avancer le dialogue dans l'optique d'un possible cessez-le-feu. La communauté d'Afrique de l'Est souhaite pour sa part organiser un sommet conjoint urgent avec la SADC d'ici les prochains jours. Claire Bargelès, Johannesburg, RFI.
Le chef de la diplomatie française, Jean-Noël Barrot, est arrivé lui à Kigali, au Rwanda. Il devrait discuter de la situation avec le président Paul Kagame. Il était hier déjà à Kinshasa, où il s'est entretenu avec Félix Tshisekedi, président congolais. La France, dont la présence militaire se réduit peu à peu au Sahel, l'armée française a rétrocédé sa dernière base au Tchad, conformément à la volonté de N'Djamena. Le Sénégal négocie lui aussi le départ des troupes françaises d'ici la fin de l'année, tandis que les effectifs français continuent de diminuer dans d'autres pays du continent, comme en Côte d'Ivoire ou au Gabon. Au Royaume-Uni, une victoire pour les défenseurs de l'environnement. La justice interdit l'exploitation d'un gisement de pétrole et d'un champ gazier. Ces gisements se trouvent en mer du Nord. Les permis avaient été délivrés par les conservateurs, mais selon un tribunal écossais, ils sont illégaux car ils ne prennent pas pas en compte les émissions de carbone qui seront générées par ces exploitations. La balle est désormais dans le camp du gouvernement travailliste, ce même gouvernement qui a promis de ne plus autoriser de nouvelles exploitations pétrolières en mer du Nord. En Écosse, Thomas Harms.
Les défenseurs de l'environnement célébraient une victoire historique à l'annonce du verdict devant la Cour suprême à Édimbourg.
On se réjouit, il n'y aura pas d'exploitation de pétrole à Rosebank. Ça veut dire qu'on peut avoir des victoires dans le combat pour le climat, et c'en est une grande.
Paradoxalement, c'est aussi une victoire qu'ont célébré les exploitants énergétiques Shell et le Norvégien Equinor derrière ces deux gisements. En effet, la justice écossaise leur permet de continuer leur installation de plateforme, mais leur interdit pour l'instant toute extraction de pétrole ou de gaz, tant que le gouvernement n'a pas validé leur permis de produire. Et c'est un vrai souci pour le ministre de l'énergie britannique Ed Miliband. Hariba Amid est directrice générale de Greenpeace au Royaume-Uni.
La balle est clairement dans le camp du gouvernement maintenant. Ils ont été élus sur la promesse de ne pas lancer de nouvelles exploitations de gaz et de pétrole et sur l'établissement d'un vrai plan de transition pour sortir du pétrole et du gaz dans la mer du Nord.
Les travaillistes se sont maintenant forcés de prendre une décision alors que jusqu'à présent, ils avaient justement refusé de se prononcer et espéraient que la justice stopperait la poursuite des installations. La production de pétrole à Rosebank et de gaz à Jackdaw devait commencer en 2026. Thomas Harms, Aberdeen, RFI.
En rugby, à présent la France à la recherche d'un nouveau trophée. C'est le début ce soir du tournoi des Six Nations. Le 15 de France reçoit le Pays de Galles et espère tourner la page d'une année 2024 difficile. Peut-être grâce notamment au retour de Romain Tamac qui revient donc après plus d'un an de blessure. Et il retrouvera son partenaire du Stade Toulousain, Antoine Dupont. Un premier match au Stade de France avant d'en enchaîner trois à l'extérieur, Babacar Diarra.
C'est une ancienne nouvelle charnière qui a beaucoup d'expérience, malgré son jeune âge.
Fabien Galthié a de bonnes raisons de sourire. Son 15 de France reprend du service avec une charnière plus alignée depuis août 2023. Une douloureuse rupture des ligaments croisés avait stoppé Romain Tamac dans son élan. Une Coupe du Monde, deux tournois et deux tournées plus tard, le capitaine Antoine Dupont retrouve son complice en bleu.
C'est comme si c'était hier, honnêtement. Je pense qu'il connaissait déjà très bien le système et la quasi-totalité des joueurs. C'est un joueur intelligent qui s'adapte vite, qui comprend le jeu, donc ça a été très rapide.
Un confort et un gain de temps dans la préparation du tournoi, d'autant que très tôt dans son mandat, Galthié a décidé de faire de son binôme Dupont en 9, Ntamack en 10, un vrai socle, une manière d'effacer son propre passé.
C'était très dur de, à mon époque, de se maintenir en 9 ou en 10 parce qu'on était toujours tenu responsable. Et là, on essaie de construire quelque chose de plus solide et de montrer que derrière le mot confiance, il y a une réalité. Et pas uniquement quelque chose qui était très éphémère et qui pouvait s'évaporer en un match.
Dupont et Ntamack forment déjà la charnière la plus alignée de l'histoire de l'équipe de France. À 28 et 25 ans, ils ont encore de beaux jours devant eux et les titres à conquérir.
France-Pays de Galles, premier match de ce tournoi du 15 de France à 20h15. Destination, coup d'envoi 20h15, heure de Paris. En basket, la pépite française, Victor Wembanyama, sélectionné pour le All-Star Games de la NBA, la grand-messe de la Ligue américaine, ce qui aura lieu dans un peu plus de 15 jours à San Francisco, en Californie. Ce sera son premier match dans cet événement, souvent très attendu et prestigieux. Wemby avait frôlé une place de titulaire la semaine dernière et a été choisi pour faire partie des remplaçants. Il est le quatrième français à être sélectionné pour un All-Star Game après Tony Parker, Rudy Gobert et Joachim Noah. RFI 5h13 à Paris 4h13 en temps universel. On reste encore ensemble pour une vingtaine de minutes. On fait un tour du monde de l'actualité.
Marion Casanova.
On sera d'abord au Kurdistan irakien où les Kurdes syriens réfugiés depuis parfois 10 ans observent l'organisation de la transition en Syrie entre espoir et inquiétude. C'était il y a 5 ans, le Brexit, le Royaume-Uni quittait l'Union Européenne et son voisin irlandais en a plutôt profité, on le verra. On sera aussi au Festival International de la BD à Angoulême, on découvrira l'exposition de la scénariste Julie Birman qui s'appelle Les Herbes Folles et rend hommage aux personnages féminins de ses bandes dessinées. Dans le Conseil Santé, on parlera de la leishmaniose, maladie tropicale négligée. On fera ensuite un tour dans la playlist de RFI, tout ça avant le retour de l'actualité africaine. En Syrie, on l'a vu dans le journal, le président par intérim dit vouloir préserver la paix civile et l'unité du territoire. Premier discours à la nation d'Ahmed al-Sharaa depuis qu'il a été officialisé comme dirigeant du pays après la chute de Bachar al-Assad. Il tente toujours de rassurer, de montrer qu'il veut rassembler les Syriens. Ces étapes de la transition sont observées de près par les Kurdes, notamment ceux réfugiés au Kurdistan irakien. S'ils sont soulagés par la chute du régime, ils sont inquiets aussi de la place qui leur sera faite dans la nouvelle Syrie. Reportage de Lucas Lazo dans le camp de Kawergost au Kurdistan irakien.
Ayaz, 29 ans, fait défiler les pages d'un album qu'il garde précieusement au fond d'une armoire.
Ce sont nos photos de famille. Ces albums sont les souvenirs qui nous restent de la Syrie et que nous avons pu emporter avec nous. C'est la seule chose qui nous relie à la Syrie. Avec la guerre, il y avait deux options, devenir un meurtrier ou bien se faire tuer. Donc j'ai pris la meilleure décision, en tout cas la plus sûre, celle de quitter la Syrie.
Son exode le conduit de l'autre côté de la frontière dans le camp de Kawergosk, au Kurdistan irakien. 10 ans ont passé et les tentes de plastique ont ici laissé place à des maisons de parpaings. Si les 1800 familles kurdes syriennes qui vivent là ont célébré la chute du régime de Bachar el-Assad le 8 décembre dernier, aucune ne s'est empressée de prendre le chemin du retour.
Bien sûr que je veux rentrer, nous n'allons pas rester ici, mais pour l'instant la situation est trop mauvaise en Syrie. Je ne veux y retourner que si l'on construit un état civil et décentralisé qui protège les droits de toutes les communautés syriennes, c'est-à-dire des Kurdes et de toutes les autres minorités. Il faut une protection constitutionnelle de nos droits, qui ne soit pas seulement des mots, mais qui se traduise par des faits.
Ces attentes sont largement partagées par ces réfugiés. Mais pour les faire entendre aux nouvelles autorités à Damas, les factions politiques kurdes doivent afficher un front uni. Or, les habitants du camp ne se sentent pas représentés par les milices au pouvoir au Kurdistan syrien, réputé proche du Parti des travailleurs du Kurdistan en guerre contre la Turquie. Accoudé à son échoppe de vêtements, Alan Walid a justement quitté la Syrie à 14 ans, de peur d'être enrôlé contre son gré.
Dans les régions kurdes de Syrie, le parti politique en charge opère un recrutement forcé. Mais nous ne souhaitons pas nous battre pour un parti politique ou une idéologie. Nous souhaitons nous battre pour les Kurdes. Si les partis parviennent à s'unir, alors nous rentrerons nous battre pour la cause kurde, pour le Rojava.
Depuis plusieurs jours, les promesses de discussion vont bon train entre ces milices qui administrent le Kurdistan syrien et l'opposition principalement exilée en Irak. Cependant, pour Muntana, croisée dans l'allée principale du camp, ces négociations ne suffiront pas à la faire rentrer chez elle.
Si nous retournons en Syrie, nous n'aurons plus rien. Nous finirons à la rue. Ici, au moins, nous possédons une maison, nous vivons au jour le jour. Je sais qu'il faudra encore 10 ans à la Syrie pour se reconstruire et revenir à la situation antérieure à la guerre. Et peut-être même que ça n'arrivera jamais.
Au-delà de ces tractations politiques fragiles, les bombardements turcs et les combats entre les forces kurdes syriennes et les mercenaires soutenus par la Turquie se poursuivent. La situation sécuritaire reste trop instable pour permettre aux réfugiés de Kawergosk d'envisager un retour. Lucas Lazo, Erbil, RFI.
Le reportage international à réécouter, à retrouver sur notre site et sur notre application Pure Radio. C'était il y a tout juste 5 ans, le Brexit, la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Et on s'intéresse aujourd'hui aux répercussions de cette sortie sur son voisin le plus proche, l'Irlande, avec Clémence Pénard, correspondante de RFI à Dublin. Clémence, quelles sont aujourd'hui les conséquences du Brexit sur l'île ?
La République d'Irlande, elle, se porte à merveille. Le tigre celtique a clairement profité du Brexit, désormais l'un des seuls pays anglophones au sein de l'Union européenne. De nombreux emplois ont été relocalisés depuis Londres à Dublin. L'Irlande est vue par les entreprises comme une porte d'entrée stratégique vers l'UE. Le pays a donc fortement renforcé ses liens avec ses partenaires à la fois européens et internationaux. En revanche, 5 ans après le Brexit, la question de l'Irlande du Nord, province britannique, elle, est encore en suspens.
Car l'Irlande du Nord, qui fait partie du Royaume-Uni, occupe une position unique en raison de sa frontière terrestre avec la République d'Irlande.
Oui, en fait, la frontière entre l'Irlande et l'Irlande du Nord est dite ouverte en vertu de l'accord de paix de 1998 après des décennies de conflits sanglants. Et cette spécificité, c'était l'une des conditions sine qua non du Brexit pour ne pas raviver des tensions historiques. Or, pour éviter le rétablissement d'une frontière physique, l'Irlande du Nord est restée alignée sur certaines réglementations du marché unique européen. C'est le protocole sur l'Irlande du Nord mis en œuvre en mars 2021.
Et qui s'est malheureusement avéré impopulaire, Clémence, auprès de certains en Irlande du Nord.
Auprès des unionistes, oui, eux sont résolument attachés à la couronne britannique et ils ont vu dans ce protocole une séparation économique avec le reste du Royaume-Uni. Alors pour s'opposer à ces règles commerciales, les unionistes se sont retirés du Parlement nord-irlandais. Le gouvernement local est resté paralysé pendant 2 ans en raison de ce boycott. Il n'a été rétabli qu'il y a 1 an seulement.
Rétabli justement car ce protocole a finalement été abandonné au profit du cadre de Windsor en 2023, mais tout n'est pas encore résolu, Clémence.
Et non, l'Irlande du Nord est comme coincée entre l'Union européenne et le Royaume-Uni. 5 ans après le Brexit, elle tente toujours de s'adapter à un nouveau modèle à mi-chemin entre Londres, Dublin et Bruxelles, et avec des tensions persistantes entre des communautés historiquement divisées. L'année dernière, le Parti travailliste est revenu au pouvoir pour la première fois depuis 2010, et le Premier ministre britannique Keir Starmer a promis de réinitialiser les relations entre le Royaume-Uni et l'Union européenne, mais les implications pour l'Irlande du Nord dans tout ça restent incertaines.
Clémence Pénard, correspondante de RFI à Dublin. Des vignettes et des bulles par milliers à Angoulême. Le Festival international de la bande dessinée a commencé. Au programme, concerts de dessin, conférences, séances de dédicaces, mais aussi des expositions. À l'honneur cette année, la scénariste Julie Birman, qui a reçu le prix Goscinny l'an dernier et qui présente en ce moment une exposition appelée « Les herbes folles ». Julie Birman est notre invitée culture. Elle répond aux questions de Sophie Torloutin.
Julie Birman, bonjour.
Bonjour.
Votre travail est mis en lumière cette année au Festival d'Angoulême, puisque vous avez reçu l'an dernier le prix Goscinny, donc qui récompense le meilleur scénariste. Pourquoi avez-vous choisi d'intituler votre exposition « Les herbes folles » ?
C'est un vieux rêve en fait. Je pense que si tout le monde avait envie d'être une herbe folle sur Terre, le monde irait mieux. Et il se trouve qu'en fait, tous les personnages féminins de mes bandes dessinées peuvent être taxés de cette épithète d'herbe folle.
Les personnages féminins, on pense bien sûr à Fernande, hein, derrière Pablo Picasso. Vous avez signé plusieurs tomes avec Clément Bruet au dessin. On pense évidemment à Gala, qui est un personnage important aussi de la trilogie que vous consacrez à Dali. Le tome 2 vient de sortir.
Alors peut-être que Gala, c'est pas vraiment une herbe folle, c'est peut-être Dali l'herbe folle, qui va être un peu domestiquée ou dirigée par Gala, parce que Gala, c'est une femme puissante. Fernande, donc c'était la première grande amoureuse de Picasso, et c'est elle qui raconte la jeunesse de Picasso. Et c'est vrai que c'est aussi une envie que j'avais, c'était de raconter l'histoire du point de vue des femmes oubliées, et même qui ont été forcées de se taire, parce que il y a une sorte de constante quand même dans l'histoire, qui est en train de changer, qui est que le point de vue est nécessairement masculin, et en fait, en tout cas dans les muses, toutes ces femmes qui ont accompagné les artistes, elles n'ont jamais eu voix au chapitre, même si on voit leur corps s'étaler sur les toiles.
Et donc, dans l'exposition, on parle de Fernande, on parle de Gala, on parle d'autres héroïnes.
Il y a aussi les drôles de femmes que j'étais allée voir avec Catherine Meurice. C'était ma première bande dessinée et c'était des femmes d'aujourd'hui que j'étais allée voir et qui étaient un peu des modèles. Je cherchais des modèles pour guider ma vie en tant que jeune autrice.
Julie Birman, l'affiche de l'exposition Les Herbes Folles vous représente en géante avec comme ça les cheveux blonds au vent avec un minuscule peintre sur son genou. Souvent, on parle dans bande dessinée, on met beaucoup en lumière les dessinateurs et peu les scénaristes. Là, c'est l'inverse.
Alors oui, et c'est vrai que les commissaires de l'exposition ont voulu insister sur ce rapport du regard en fait entre la muse et le peintre. D'habitude, en fait, c'est le peintre qui a le pouvoir, et là, en fait, c'est la muse qui raconte. C'est Fernande qui raconte. Et il est vrai que je vis avec un dessinateur, que j'ai toujours vécu avec des dessinateurs, et que d'une certaine façon, ce côté où on s'occupe de l'artiste, c'est un truc qui est très ancré dans la société, et ça a été aussi un petit peu mon rôle, sauf que moi je suis une muse qui parle et qui écrit. Donc c'est vrai, en même temps l'affiche c'est plus universel que ça, c'est la muse et son peintre. C'est vrai qu'il est tout petit le peintre, que c'est Clément qui l'a dessiné, et c'est aussi son regard amusé sur les choses, parce que Clément c'est quelqu'un qui est un grand amoureux des femmes, de la femme, donc c'est pas uniquement moi qui l'a dessiné.
Quel regard vous portez, Julie Birman, sur l'évolution aussi du milieu de la bande dessinée en général? Il y a quelques années encore, il n'y a peut-être pas si longtemps, il y avait eu une polémique à Angoulême, s'il n'y avait eu aucune dessinatrice nommée pour le Grand Prix. On a le sentiment, c'est peut-être aussi post-MeToo que ça s'est inversé. L'an dernier, le Grand Prix, c'était Posy Simmons. Cette année, c'est Anouk Ricard. Vous, Julie Birman, prix Goscinny, est-ce que vous sentez que les choses changent?
Ce qui est intéressant et qui rejoint mon travail, c'est le fait que les femmes puissent donner leur point de vue. Et moi, c'est ça qui m'enthousiasme. C'est qu'en fait, il y ait des Catherine Meurice, il y ait des Anouk Ricard, il y ait des Posy Simons qui regardent le monde et qui nous le donnent à voir avec leur sensibilité féminine.
Julie Birman, merci.
La scénariste Julie Birman et son expo à voir au Festival d'Angoulême, le Festival de la bande dessinée RFI, 5h25 à Paris.
Le Conseil Santé avec Suno Assurance.
Et on revient ce matin sur une maladie tropicale négligée avec Caroline Paré.
Professeur Areskizri, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur émérite de parasitologie mycologie au service de parasitologie à l'hôpital Avicenne de Bobigny en région parisienne. Comment la leishmaniose, cette maladie tropicale négligée, est-elle diagnostiquée ?
Alors, on ne peut pas parler de la leishmaniose, mais des leishmanioses. Il y a la forme viscérale, qui est la plus dangereuse, qui est mortelle. Et même dans la forme viscérale, il y a plusieurs formes. Il y a deux formes viscérales différentes. Et puis, surtout, les plus fréquentes, les leishmanioses cutanées ou cutanéo-muqueuses, qui sont de loin les plus répandues, les plus importantes. Alors comment on les diagnostique? C'est en mettant en évidence le parasite, soit au niveau des plaies, soit au niveau de la moelle osseuse dans certains cas.
Le phlébotome, c'est le vecteur de la maladie, autrement dit l'insecte qui va inoculer le parasite, il ressemble à quoi?
Alors le phlébotome est un tout petit insecte, ou peut-être 2 à 3 millimètres, avec, je dirais, des longues pattes, des ailes dressées en V sur le dos, des ailes qui se terminent en pointe. Alors il a de beaux yeux, mais ça c'est pour les entomologistes. Voilà, il ressemble un peu à un moustique, mais c'est pas un moustique.
Et comment on peut limiter sa prolifération?
La prolifération du phlébotome ou des leishmanioses?
Du phlébotome.
Oh, ça, c'est pas évident, parce que les phlébotomes se trouvent dans différents milieux et donc ils sont très répandus et dans le monde entier.
Dans le monde entier, la leishmaniose, il y a un médicament en prévention?
Alors, il n'y a pas vraiment de médicaments préventifs, mais il y a des médicaments pour soigner. Ça se soigne très bien quand on a les produits.
Merci, professeur Areskizri. Aujourd'hui, dans Priorité Santé, émission Questions de femmes, on va parler des troubles et maladies de la thyroïde. Prévention, diagnostic, prise en charge. Un spécialiste à votre écoute, à retrouver à 9h10 et 1h10, temps universel. Et à toute heure en podcast sur l'appli RFI Pure Radio.
À tout à l'heure, Caroline Paré. Dans quelques minutes sur RFI, le retour de l'actualité africaine. Nous, on fait un tour dans la playlist musicale de RFI. On écoute Clou et le titre À l'évidence.
J'essaye 2-3 pauses, je joue des hanches, j'ose une timide Marilyn, je relève mes cheveux et frôle ta peau avec mes yeux. J'ai le feu de Springsteen. À l'évidence, on ne se connaît pas. Ces nuits de chance ou d'une seule fois. À l'évidence, on se plaît sans savoir qui on est. Sans savoir qui on est. Tu ne sais pas que tu es beau quand tu prépares tes mots. Tendre maladresse, je tente de t'approcher. La musique est forte pour parler. Tous mes mots sont des gestes. À l'évidence, on ne se connaît pas. Ces nuits de chance ou d'une seule fois. À l'évidence, on se plaît sans savoir qui on est. Sans savoir qui on est. On se bâtit une île sur un coin de bar. Battement de cils, top départ. Qui peut me dire ce soir comment se finit l'histoire?
Clou est son titre À l'évidence que vous retrouvez dans la playlist du mois, la playlist de RFI. Dans une minute, le retour de l'actualité africaine.
Jusqu'au 16 février prochain, votez pour l'un des 10 finalistes du prix Découverte RFI 2025. Le choix du public sera pris en compte lors du grand jury présidé par Angélique Kidjo qui proclamera le lauréat de cette année. Découvrez et écoutez les 10 candidats finalistes sur le site RFI.fr, sur nos réseaux sociaux et sur le site prixdécouverte.com jusqu'au 16 février. À vous de voter.
Demain sur RFI,
c'est pas du vent, Anne-Cécile Bras.
Plus de 80% de la production d'huile de palme provient d'Indonésie et de Malaisie. Critiquée pour la déforestation massive et les impacts sociaux qu'elle entraîne, elle est en pleine expansion sur le continent africain. Nous vous emmenons au Cameroun et au Bénin.
C'est pas du vent, Anne-Cécile Bras.
Du mercredi au vendredi à partir de 14h10 TU sur RFI.